coup, je vous laisse avec Kimila les capistes.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de Ciné Monstre, justement, de ce qu'on va voir tout à l'heure?
Alors, Ciné Monstre, c'est un montage un peu brutal, un peu... C'est pas un concept, mais c'est venu comme ça d'une idée, d'une proposition de la Géode qui souhaitait me confier un module qui mêlerait mes images de cinéma et puis mon rapport à la musique. Et tout naturellement, moi j'ai pensé à Goran Vejvoda, qui est le musicien de mon deuxième film, Tycho Moon, et du troisième, Immortel. Le premier que j'avais fait avec Pierre, c'est la musique avait été faite par d'autres musiciens. Donc le concept est né comme ça, je me suis dit, cette matière de trois films, qui fait à peu près cinq heures de matière cinématographique, pouvait donner quelque chose d'un peu abstrait, et en même temps... pouvait avoir un sens aussi, parce que je me suis rendu compte que finalement les trois films avaient un peu la même structure. Et le fait de faire ce montage n'a fait qu'apporter la preuve qu'effectivement ils étaient conçus un peu de la même manière, et qui se termine un peu en entonnoir avec toujours un couple qui finit par se retrouver. Donc voilà, ça c'était ça le point de départ, et puis ensuite la chose a évolué parce que. Le fait que Goran intervienne directement en live avec des sons nous a amené à supprimer certaines parties de la bande-son des films. Et donc à chaque fois, ça donne quelque chose de différent. Donc c'est une espèce de spectacle qui évolue, qui vit aussi avec les instruments que Goran peut avoir sous la main. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont un peu aléatoires et qui font que... Bah, c'est une belle aventure. Voilà. D'ailleurs, j'expliquerai avant la séance de ciné-montre, dans très peu de mots, que c'est quelque chose qui n'a pas a priori de sens. Il ne faut pas le regarder comme un vrai film, puisque par définition, c'est de la matière qui vient de trois films différents, et que volontairement, j'ai laissé parfois des bouts de versions étrangères non sous-titrées. Donc, quand on passe du japonais à l'allemand pour revenir au français et à l'anglais, donc voilà, on est forcément dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'expérience que de la pure narration.
D'ailleurs, Goran Vejvoda arrive là.
D'accord.
Une question, si vous permettez, pour revenir un petit peu en arrière, concernant les collaborations que vous avez pu avoir avec Serge Lévy.
Oui. Bien sûr. En fait, je lui avais confié un peu le rôle, un rôle que je n'osais pas faire moi, à savoir revisiter, reprendre en la matière de la trilogie Nicopole, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, il s'agit de notre travail sur Immortel. Donc je le connaissais, hein, puisque je connaissais l'écrivain, le spécialiste, le directeur de collection d'ouvrages de science-fiction, et je savais qu'il avait écrit un papier très complet, très dense sur mon travail à une époque, et j'ai pensé à lui comme ça tout naturellement, je lui ai proposé d'être le partenaire dans cette histoire, le sparring partner, et il a accepté, et donc c'était difficile à faire parce que c'était pas une adaptation, c'était une déconstruction plutôt, donc ça s'est... ça s'est bien passé, mais sur le temps, on a réécrit énormément de versions différentes. Et puis comme un film dans cette technologie aussi est assez complexe, la partie 3D qui était assez désagréable, je dois dire. C'est pas un très beau souvenir pour moi, cette partie-là. Donc ça nous a un peu contraints, y compris dans l'idée du scénario et dans l'imaginaire. C'est très contraignant. Il fallait s'adapter aux outils et à la technologie. Donc... ce ne sont pas des expériences pleines, ce sont des expériences qui sont toujours frustrantes. C'est beaucoup plus frustrant que par exemple un travail sur un film plus traditionnel comme l'était Bunker Palace, où avec Pierre on a fini par trouver un équilibre beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, c'est sur le plan, en tout cas, c'est quelqu'un que j'adore, que j'apprécie, et donc voilà, dans ce sens-là, ça s'est très bien passé. Alors Goran Vejvoda, donc le musicien, donc de compositeur, et qui va jouer, qui va improviser sur le Ciné Monstre.
Bonjour. Alors justement, l'improvisation, comment vous gérez ça?
Comment je gère ça?
En fonction de l'enveloppe qu'on lui donne. Regarde la prod.
En l'occurrence, 11,70€. Donc, pas beau, ça va être très, très petit, très minimaliste. Voilà. Mais non, mais c'est dès le départ, l'idée du cinéma, ça, c'était qu'il y ait une partie sonore. On s'était mis d'accord avec l'équipe, il y a vraiment un espace sonore assez libre. C'est-à-dire, comme moi, je voyage assez souvent avec le cinéma monstre tout seul, qui n'est pas là, très présent quand il est là. L'idée, c'était de ne pas rentrer dans une routine, de répéter la même chose. Puis comme on a affaire à un objet comme ça, assez débridé, assez ouvert, et c'est plutôt pas mal, pour faire quelque chose au niveau du son à chaque fois différent, ça s'y prête plutôt bien. Alors il y a des choses, je tombe dans mes propres pièges, parce que comme l'image est fixe, et moi ce que je fais n'est pas fixe, mais j'ai plus ou moins les mêmes machines, les mêmes instruments, je fais attention de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Mais parfois c'est plus facile, parfois c'est plus compliqué, mais c'est très excitant. On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans un discours de formatage, mais tout est formaté. Et des espaces où on n'est pas formaté sont assez rares. On a essayé de trouver un espace non formaté, si je puis dire. Mais ce n'est pas l'improvisation. Oui, l'improvisation dans le sens de jazz, c'est-à-dire, oui, les jazzman, quand ils improvisent sur un standard et tout ça, ils connaissent très bien leur standard et puis ils l'amènent autre part. Là, c'est quelque part, moi je connais mon film et puis j'essaye de l'amener quelque part, l'image que je connais. Mais j'essaye de faire table rase plus ou moins à chaque fois et de recommencer, de me remettre en danger et de voir qu'est-ce que ça fait, avec quel est le rapport avec l'image à chaque fois.
Une question pour tous les trois. Quel regard, du coup, jetez-vous sur les trois films avec le recul? Parce que je vois comment Bunker Palace Hotel, c'est sorti il y a quand même quelques années maintenant. Donc, quel regard vous jetez sur ces œuvres?
Pierre, tu n'as pas parlé.
C'est curieux de le revoir. Alors, en tant que Bunker Palace Hotel, du début jusqu'à la fin, tel qu'il a été conçu, et puis de le revoir à l'état de palimpseste mêlé aux deux autres films. Puisque tout d'un coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signification, mais les significations pivotent un peu sur elles-mêmes, deviennent assez ambiguës. En même temps, par exemple pour moi, il y a la présence par exemple d'un très grand acteur comme Trintignant, qui fait que ça soit dans la version A, si j'ose dire, ou dans la version A, B, C, prime, prime, la force, je pense que tu en es d'accord, la force du comédien fait que, tout comme il était la vraie charnière du premier film, c'est quand même lui, par son pur talent, par son apparence physique, qui finit par restructurer autour de lui le deuxième film. Et ça, ça fait partie des choses comme ça, un petit peu aléatoires, parce que je ne pense pas que ça ait été spécialement voulu au départ, mais c'est ce qui...
Non, mais ça s'est révélé à un moment donné comme une... Il s'est imposé, c'est vrai que le personnage s'est imposé par son crâne rasé, par sa position un peu décalée, personnage mystérieux, capable de se démultiplier visiblement à l'infini. Enfin, donc tout ça faisait qu'il était le fil conducteur idéal. Mais encore une fois, moi, ce montage était totalement... c'est de l'accident pur, hein, un montage de 1h10 à partir de 5h matière cinématographique, ça peut donner des variétés immuables, c'est sans fin, je veux dire, c'est sans fin parce que c'est
Et ça peut devenir un exercice. On aurait pu, j'aurais pu tourner tout autour du personnage de Piccoli, par exemple, qui est dans le deuxième film très, 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 très étrange aussi. Mais voilà, je crois que simplement, c'est l'esthétique aussi, c'est l'attirance esthétique peut-être de ce personnage mystérieux qui a fait qu'il est devenu le fil conducteur. Mais le regard que je porte sur ces trois films, je les ai vécus tous les trois de l'intérieur, donc je connais leur histoire, ça n'est jamais facile, comparé à mes histoires de d'auteurs de bande dessinée, que ce soit en travaillant avec Pierre Christin ou seul, je sais que la maîtrise est quasiment totale, toujours. On essaye, en tout cas au moment où on laisse partir la matière chez l'imprimeur, on sait qu'on a quasiment tout maîtrisé. Le cinéma, c'est une aventure collective, c'est beaucoup plus complexe, c'est une aventure financière, c'est une industrie maintenant de plus en plus. Donc le chemin, le combat et le parcours du combattant est beaucoup plus, comment dire, plus âpre, plus. Donc il laisse des traces. Donc en même temps, il y a une satisfaction ou non à l'évocation, à l'imaginaire de ces films. Moi, j'ai une satisfaction de cohérence. J'ai l'impression que ces trois films n'ont pas. Dans aucun des films, je n'ai fait de concession. Mais ça, c'est une forme de fierté. Je pense qu'on a, on a réussi à les faire. Y compris avec des obstacles technologiques, dans le dernier notamment, la partie 3D était très 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 difficile à gérer et s'est révélé être un piège très vite. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de concession. Je crois que ce sont des films qui ont une singularité, une force, on les aime ou on les aime pas, ils ont été plus ou moins vus, mais ils ont, je n'ai jamais cédé à des facilités de formatage, du marché ou à certaines pressions qui auraient pu venir de certaines chaînes. Donc ce sont des films qui sont des monolithes, voilà, on les prend tels qu'ils sont, et puis voilà, on les aime, on les aime pas, mais en tout cas ils sont. Moi je les assume totalement comme ça.
Là, vous parliez de contrôle, justement sur l'œuvre. Ça me semble intéressant en tant qu'auteur de bande dessinée que vous exploriez par exemple, pourquoi pas les dessins animés à la Villa, qui ressemblerait évidemment pas.
Je suis en train de travailler là-dessus justement. Donc voilà, là effectivement, le contrôle sera en principe plus important. L'idée étant évidemment d'être très exigeant là aussi, parce que j'ai un style qui est relativement réaliste, même s'il joue sur des décalages, et c'est un dessin réaliste comme le mien ne peut pas souffrir d'une animation médiocre. Il faut qu'elle soit parfaite, l'animation. Voilà. Et puis après, c'est le rendu, tout ce travail-là. On est en train de faire des tests là-dessus, et une aventure assez excitante. Oui. Je pense que c'est le moment est venu de la tenter, en tout cas.
Et justement, les tests que vous menez vous satisfont
ça... Petit à petit, ils me satisfont. Je suis très prudent maintenant, je serai...
Ouais, vous savez, il y a un métier qui est un métier artisanal. La bande dessinée, c'est un ou deux gars, seuls, pendant des semaines, des années, qui travaillent beaucoup, mais avec des moyens extrêmement réduits. On peut faire une bande dessinée géniale avec du papier, de l'encre et rien d'autre. Hein. Dans le cas du dessin animé, il y a eu un dessin animé qui a été tiré de la bande dessinée que j'ai avec Jean-Claude Mézières qui s'appelle Valérian, qui là aussi, pas pour les mêmes raisons et pas de la même façon que pour Enki, demande ou aurait demandé un traitement stylistique très particulier pour le dessin de Jean-Claude, où ça commence toujours très bien, hein, en général. Vous relisez les scénarios, vous êtes nommé pompeusement directeur d'écriture, ok, vous recevez des scénarios ineptes que vous renvoyez à la casse, non, mais c'est un mec qui ne sait pas écrire, ok, très bien, vous en recevez d'autres, bien foutu, vous dites bravo, ça celui-là, regardez, parce que dans le cas de Valérian, il nous a fallu 40 ans à Messier et moi-même pour faire notre album, et tout d'un coup on fait 45 épisodes de 25 minutes avec 80 pimpins qui bossent au Japon, 50 qui bossent en France, et bref, vous recevez par exemple déjà vos scénarios, vous apercevez que les scénarios que vous renvoyez à la casse vous sont réadressés sans arrêt parce que par exemple Disney Channel, ou la 3, ou la 2, qu'importe, veulent que ce gars-là travaille. Et les scénarios dont vous avez dit bravo, c'est bien, ils étaient un peu, peut-être un petit truc, ça n'entendait plus jamais parler. Alors, pour d'autres, tout ça, voilà, c'est des logiques commerciales, technocratiques, qui n'ont rien à voir avec le projet lui-même. Et résultat, à l'arrivée, par exemple dans le cas de Valérian, hélas, c'est pas que ça n'ait pas de vertu ou de qualité, mais quand j'ai vu les premières images comme ça par hasard, d'ailleurs, en passant dans le studio, je ne me suis même pas aperçu que c'était les héros Valérian et Laureline avec lesquels je travaillais depuis 40 ans. C'était, en gros, un petit japonais de la garde de Shinjuku et une petite coiffeuse japonaise avec un nœud dans les cheveux super, au poil. Mais bon, faut bien le dire, rien à voir avec ce qu'on avait désespérément essayé de contrôler. Et où il y a eu un moment, bon, ben voilà, la logique commerciale l'emporte. Et ça donne, je le répète, un produit qui n'est pas forcément dégradant, mais qui n'a plus aucun rapport avec ce que vous avez fait. Parce que ça ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Une BD, c'est une petite barcasse où on rame, hein, c'est un canoë-kayak. Un film, ça, un transatlantique, il faut avoir même un cargo pourri.
Surtout, il y a 25 avis qui convergent tout d'un coup, des contradictions, des contradicteurs et voilà, des pressions. Donc c'est... Voilà. Bon, vous connaissez, je pense, tout ça.
Justement, le travail que vous avez pu accomplir tous les deux, donc Pierre-Christin et Kébidal, sur une première bande dessinée, vous envisagez un jour de quand même partir à l'écran,
Bah ça, on y a pensé récemment, on est tourné un peu sur un projet tournant autour des phalanges précisément. Les parties de chasse avaient aussi intéressé à une certaine époque des réalisateurs, assez curieusement toujours des réalisateurs venus du froid, alors que ce soit de l'Europe du Nord, de Finlande ou de Norvège ou alors du Québec. Bon, comme si cette omniprésence neigeuse stimulait les neurones des gens du Nord, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Ce sont des sujets forcément forts et des phalanges peut-être encore plus cinématographiques, hein, puisque de l'action, du déplacement, c'est un sujet qui avait déjà intéressé très très fortement Ettore Scola, il y a très longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années. Et Ettore Scola, bon, pour des raisons X, n'a pas pu le produire. Mais il y a une petite anecdote quand même assez intéressante là-dessus pour dire à quel point le passage de l'un à l'autre est toujours problématique. C'est que l'adaptation que Pierre avait faite, une adaptation assez rapide, hein, un déroulé, on va dire, de l'action de Phalanges de l'Horreur Noire pour un script de film, cette adaptation, lorsqu'elle a été minutée par l'équipe de Scola, on était arrivé à une durée de 4h30 pour l'équivalent de la matière des Phalanges. Donc voilà, ça c'est une histoire que l'on connaît. On sait très bien que adapter un roman, une bande dessinée, c'est un passage très particulier pour le cinéma. Et c'est pour ça que dans ce passage, on y laisse beaucoup de plumes. Hein. Rarement une œuvre cinématographique égale surpasse encore plus rarement l'original écrit. Bon. Donc on est sur un projet, mais c'est très complexe, encore une fois, pour des raisons de financement. L'histoire se situe dans les années 70, donc c'est reconstitution, donc c'est très lourd, très cher. Est-ce que ce sujet peut encore passionner des gens, une jeunesse qui peut-être ne sait même plus ce que c'est que l'Europe des années 70, qui ne sait pas ce qu'était la guerre d'Espagne, donc on est, voilà, ce sont des questions que se posent les commerciaux immédiatement et qui sont des questions qui sont déprimantes. Donc il faut passer outre ça, voilà.
Oui, c'est des problèmes assez complexes, parce que, par exemple, quand les Phalanges de l'Ordre Noir ont été faits, écrits, et qui, en gros, racontaient que le terrorisme prétendument d'extrême-gauche était voué à l'échec, je vous rappelle, je m'en suis persuadé d'ailleurs plus tard, que c'était l'année où Action Directe se montait en étant persuadé que le terrorisme était la réponse à un certain type de préoccupation politique. Alors, si le film s'était fait, si j'ose dire, à chaud, c'est un film contemporain, avec des avantages et des inconvénients, etc. Maintenant, on peut retourner ça dans un sens ou dans un autre, c'est un film historique. Et il faut bien dire en plus que les Français sont pas forcément très doués pour les films historiques ou semi-historiques. Je pense par exemple au dernier film de Guédiguian sur l'affiche rouge, sur le groupe Manoukian, où c'est la terrible esthétique de la télé, genre Butte-Chaumont. Il y a des bagnoles de collection partout, on a l'impression d'être dans un salon rétro-mobile. C'est-à-dire, on ne voit plus du tout le drame, qui était pourtant absolument poignant, de l'affaire Manoukian. C'est pas un mauvais film, mais ça se perd dans les problèmes de reconstitution, dans les problèmes de remise à niveau historique, parce qu'effectivement, on pense que le public ne connaît plus rien de la période de la Seconde Guerre mondiale, donc faut expliquer
la pédagogie. Hein.
Ouais, alors bon, que quand il y a un gars avec un béret qui passe dans un coin, c'est Krasuki qui sera plus tard le secrétaire de la CGT. Et ça donne, ça marche pas. Alors, si c'est pour faire des phalanges, une espèce de téléfilm, c'est pas la peine. Alors après, la question autour de laquelle on tournicote, c'est qui seraient les affreux au jour d'aujourd'hui, qui sont les bons et les méchants, parce que c'est quand même un film qui tourne beaucoup autour de ça, et sur le mystère du terrorisme, enfin, comment peut-on passer à l'action terroriste. C'est, enfin, il y a des réponses, mais à tourner, à filmer, même à situer géographiquement, c'est pas du tout évident 30 ans après avoir été...
Et surtout qu'on tombe sur le territoire, le terrain qu'occupe un certain cinéma américain de manière très efficace, dont pratiquement le modèle du genre pourrait être la trilogie Jason Bourne, par exemple. Et dès qu'on est dans ce type de les phalanges, si on les réactualisait, pourraient marcher sur ce type de terrain. Voilà. Donc du coup, c'est un cinéma vraiment purement d'adrénaline, etc. Alors nous, évidemment, moi, si je faisais un film à partir de ça, on se concentrerait évidemment sur des héros fatigués.
C'est forcément un film d'action où les mecs ont des rhumatismes, oui. Ils font rien pendant tout le film.
Mais en même temps, au cinéma, il faut penser à ça aussi. On peut pas avoir des acteurs de 80 balaises, je veux dire, c'est bien difficile aussi. Donc on est dans...
mais c'était justement parce que Vittorio Scola est malheureusement pour lui tombé gravement malade. C'était l'épisode, et je me souviens, je sais pas si je l'avais vu tout seul, et comme il fallait prendre des comédiens à l'époque, on avait des idées, déjà très âgés, si ça s'était fait dans les années 80, c'était Scola qui... Scola qui disait « Ah oui, il va falloir qu'on ait le SAMU sans arrêt pour toutes les scènes qu'on va tourner en extérieur. » Lui-même disait ça du fond de son lit d'hôpital. Ouais, ouais.
C'était son sens de l'humour, ouais, c'était plutôt pas mal. Il venait d'avoir une crise cardiaque, ouais. C'était plutôt marrant. Et il va très bien.
Cela étant, on peut envisager des financements espagnols, italiens pas le même rapport à ce genre d'histoire que...
Oui, mais moi je pense que malheureusement, le formatage du cinéma, le formatage culturel est en marche partout. Il est en marche partout. Et je dis pas que c'est perdu, mais ça me paraît difficile. Le problème qu'on peut trouver en France, on le trouve en Italie, d'ailleurs le cinéma est moribond depuis longtemps, il ne s'en remet pas. En Allemagne, il recommence à bouger, donc c'est peut-être du côté de l'Allemagne qu'il faudrait aller voir, mais en Espagne, le cinéma il est très très moribond également, à part deux, trois cinéastes prestigieux qui réussissent de temps en temps à faire parler d'eux à Cannes, je pense à Almodovar, etc., c'est l'arbre qui cache la forêt, donc il n'y a pas d'industrie cinématographique. Et s'il y a envie dans tous ces pays-là de produire, c'est produire dans l'esprit de ce qui est rentable, vendable, de ce qui est recevable, selon la dictature du formatage à l'américaine, ou de l'efficacité planétaire. Donc c'est malheureusement le gros problème de la culture, et ça dépasse le cinéma lui-même. Hein.
Mais il faut dire, d'ailleurs, si vous regardez, que la BD, là aussi avec des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'importe, a une offre de spectacle en quelque sorte incroyablement plus large que le cinéma français au jour d'aujourd'hui, où deux films sur trois sont, faut bien le dire, basés sur des comics de télévision, des films du genre La femme de mon mari, etc. Enfin bon, théâtre de boulevard. La BD ayant peu besoin de moyens financiers pour éventuellement réussir des scènes extraordinairement spectaculaires uniquement liées au talent du dessinateur, aborde des tas de sujets beaucoup plus variés, incroyablement plus variés que n'importe le cinéma français au jour d'aujourd'hui. Donc ça explique aussi peut-être le succès de la bande dessinée, et quand même très cruellement l'insuccès en salle, de plus en plus manifeste, de les deux tiers des films français, où c'est torché en 10 jours. Faut voir ce que ça prétend raconter, même ne pas raconter. C'est devenu tout petit. Tout raboulé.
La BD ne souffre-t-elle pas encore d'une image, de son image jeunesse qu'elle a pu être dans les années 70 ou 80, de la BD classique franco-belge ?
Bon, il y aura toujours des gens qui traîneront ce type de pensée, oui, bien sûr. Mais on va pas. Voilà, la réalité, c'est que simplement il y a des auteurs de bande dessinée adulte, profonde, de qualité. Il y a toujours cette partie distraction. La nostalgie fait partie aussi de. C'est un peu un boulet que traîne la bande dessinée, le côté nostalgique. Ah, quand j'étais jeune, je lisais de la bande dessinée, moi le premier d'ailleurs. Quand je vois Tintin, j'ai toujours une espèce de petite larme au coin de l'œil. Ça me rappelle mes premiers émois avec la langue française à arriver à Paris avec Tintin entre les mains. Donc c'est, mais en même temps, ça, c'est, je pense que c'est un petit peu un faux problème parce que c'est la bande dessinée est très bien diffusée en France. Elle sert de support d'adaptation de plus en plus pour le cinéma. Donc c'est un paradoxe. Alors c'est pas forcément pour la meilleure. Des résultats très réussis, mais en tout cas voilà, on est dans quand même dans quelque chose de vivant et de varié. Ce que disait Pierre est effectivement très très juste, et parce que ce sont des auteurs, c'est-à-dire qu'au cinéma, des auteurs aujourd'hui en France, il y en a très 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 peu, très peu. Et je vous conseille un film qui va sortir là, qui est le film d'Alain René. Allez voir ça parce que c'est, alors, il n'est pas l'auteur, il n'est jamais l'auteur des films, des scénarios. Mais il s'approprie le texte, son choix du texte et sa manière de filmer fait que voilà, parmi les auteurs du cinéma français, il en reste peut-être 3 ou 4 et il y a Alain René dedans. Tout le reste, c'est de la fabrication de produits télévisuels, fait pour le marketing télévisuel, fait pour passer à la. Bon voilà, on est dans une moulinette absolument ignoble. Et...
Oui. Mais vous savez, par exemple, c'est ça qui a fini par. Pour prendre un autre exemple, en partie faire péricliter quelque chose de magnifique comme la série noire, où 2 romans sur 3, en réalité, étaient écrits, découpés et préparés pour pouvoir être achetés par la télévision. Que c'était le seul moyen de garder l'équilibre financier de la collection. Les meilleurs romans ne vendant pas assez pour assurer la pérennité. Alors, ça donne, bien entendu qu'il y a toujours des très bons romans policiers, mais ça a donné finalement encore des romans hyper formatés. C'est-à-dire, quand vous feuilletez le roman, vous avez déjà l'impression qu'il y a la caméra qui va filmer, ce qui n'est pas une bonne chose pour un roman. Quant à la BD, il y a de tout. Il y a des BD ineptes et des BD très ambitieuses. Ben, c'est ça, un genre vivant. Voilà. Il faut faire son choix. Encore que, s'il fallait clore là-dessus, malheureusement, ce que je constate, par exemple pour les scénaristes, qui n'était pas vrai avant, c'est que vous arriviez avec votre idée chez un éditeur, prenez pas, mais de plus en plus on voit arriver le commercial, les directeurs littéraires qui ont une idée et qui vont recruter un scénariste, etc., en disant « tu vas me faire une série de 10 albums avec 10 dessinateurs ». Alors ça ne veut pas dire que c'est voué à la médiocrité, mais c'est un renversement qui malheureusement a tendance là aussi à mettre la BD au carré comme ça a été fait pour le cinéma.
Donc on est mal barré, je vous le dis.
Oh, en fait, il y a toujours des interstices, hein, non, la non, preuve.
Non, non, mais il faut simplement... Voilà, je pense que la culture, en sens général, devient une espèce de terrain de résistance, de lutte. C'est peut-être là que... Oui, c'est là qu'il faut marquer la différence. C'est pour ça qu'il faut être dans une forme de radicalité. Je crois qu'il ne faut plus pas faire de concessions. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire, en tout cas. De ne plus en faire. J'en ai jamais fait, en fait. Et avec Pierre, quand on a travaillé ensemble sur nos albums de bande dessinée, on n'en faisait pas. C'était peut-être ça, des recettes, entre guillemets, du succès aussi, et je pense que c'est ça, ne pas faire de concessions. Voilà. Rester intègre, au sens pur du terme.
Une question qui est là,
il est 18h, Pierre qui s'en va aller prendre le train, là, il y aura des jeux d'as préparés pour le ciné monstre.
Peut-être juste la dernière question. C'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur une adaptation ne pourra jamais être aussi bien que l'œuvre originale. Dans ce cas, je me pose la question, vous cherchez toujours à faire des adaptations, et vous parlez de ne pas faire de concessions, mais vous êtes obligé par rapport au cinéma. Qu'est-ce que ça vous apporte alors, c'est de réaliser ces adaptations?
J'en ai fait qu'une fois, mais c'était pas une adaptation.
Oui, mais vous parliez des panneaux, par exemple, adaptés.
Ah oui, pardon, oui. C'était pour répondre à une question. Oui. Je pense qu'on l'aurait fait, comme l'a dit Pierre, à chaud au début des années 80, si on avait, si l'occasion s'était présentée, on l'aurait peut-être fait. Là, si on tourne autour du pot, c'est aussi de voir comment le thème, le cœur même du sujet des phalanges, peut être décliné dans une adaptation, mais dans une œuvre originale, contemporaine. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir comment cette histoire de vengeance obsessionnelle extrême entre deux groupes de vieillards qui s'étaient affrontés auparavant, comment on peut la réactualiser ou la placer dans un contexte nouveau pour en faire. Parce que l'idée, malgré tout, reste belle et universelle, et elle est forte, elle est toujours aussi forte, cette idée-là. Donc c'était ça un petit peu la question. Et puis pour ce qui est de l'immortel, c'est pas une adaptation du tout, c'est une déconstruction, j'ai pris quelques éléments de personnages qui... Alors après, la mauvaise communication ou la paresse aussi de certains spectateurs fait qu'ils disent « Ah bah oui, mais il n'y a pas ceci dans les albums, il y a cela ». Non, c'est pas ça. Malheureusement, j'ai entendu des choses concernantes. Bon. Mais, et puis c'est... Voilà. Donc, mais en même temps, je continue à penser qu'une œuvre adaptée au cinéma, c'est rarement... elle égale rarement l'original.
Là, on est dans un cas quand même très particulier, où c'est vous-même qui adaptez votre œuvre.
C'est une mise en abîme, ou c'est une façon de... Voilà, c'est une responsabilité que l'on prend, ou que je prends, voilà.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.